Le texte que nous partageons ce matin se trouve dans Philippiens 2, des versets 1 à 11. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père.
Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. J'avais été assez discrète sur mes origines évangéliques et puis quand le pasteur de Mérin m'a dit « Alors on fait un échange de chair pendant l'été, ça te dérange ?» Je dis « Oh non, ça va, je connais. » Alors comme ça vous savez aussi d'où je parle. Cet été, c'est à une méditation des hymnes du Nouveau Testament que vous êtes invités. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu, nous commençons avec un texte qui a une grandeur et une profondeur théologique et spirituelle qui n'augure rien de bon pour la longueur de cette prédication. Rassurez-vous, j'ai fait un effort. Pour reprendre la formule d'un commentateur, ce passage est un de ceux dont on a peut-être trop fait l'exégèse. En effet, c'est un immense passage du Nouveau Testament qui porte en son cœur cette notion biblique, de théologie biblique, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, c'est-à-dire la kénose. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot, la kénose. Parce qu'en effet, au verset 7, on nous dit que Jésus-Christ se dépouilla, du verbe kénoo, se vider. Donc, littéralement, on nous dit Jésus-Christ s'est vidé de lui-même. Et on appelle ça la kénose. Et c'est là le centre de cette hymne ancienne qui est reprise ici par Paul. Et dans ce texte, nous l'avons entendu très rythmé, nous ne retrouvons pas l'affirmation de Paul comme quoi la croix sauve. Ce n'est pas ici, ce n'est pas sur ça qu'il attire ici l'attention. Ce qu'il veut nous dire avec cette hymne, eh bien c'est nous parler surtout et en premier lieu de l'incarnation de Jésus-Christ, de son abaissement, du fait qu'il s'est humilié jusqu'à l'extrême, se dépouillant de toute prétention, jusqu'à mourir sur la croix. Et puis, après la description de ce mouvement d'anéantissement, d'abaissement, on nous dit que Dieu l'a exalté et l'a fait participer à sa gloire. Voyez, en quelques lignes, dans cet hymne est résumé le parcours du Christ. Vivant une kénose, se vidant de lui-même, renonçant à dominer le monde, eh bien c'est ainsi qu'il devient Christ et Seigneur. Son total dépouillement le conduit à la gloire. Alors cet hymne ne nous dit pas comment Dieu sauve, mais elle nous dit comment Dieu aime, comment il s'exprime dans le monde, et comment en s'incarnant, en se donnant sans aucune limite, comment il aime en consentant à partager notre faiblesse. Un jésuite français, mort en 79, François Varillon, a écrit un très très beau livre qui s'appelle « L'humilité de Dieu ». Et bien de sa profonde méditation, j'ai retenu cette parole. Il dit « Le cœur de ma foi, c'est que l'être de Dieu correspond à son apparaître dans le Christ. Jésus ne nous dit pas seulement comment l'homme doit aimer, mais aussi et d'abord comment Dieu aime. S'il y a une kénose du Christ, c'est que Dieu Père, Fils, Esprit est éternellement en kénose, c'est-à-dire en acte de livraison sacrificielle de soi. Après j'arrête avec la haute théologie, je vous promets. Ainsi Dieu se vide de lui-même. Et c'est par ce mouvement même qu'il se révèle à nous. Ainsi l'image de Dieu dans le ciel, fort, puissant, inébranlable, presque insensible à la souffrance, cette image d'un Dieu qui ne serait que tout-puissant s'écroule dès lors que l'on prononce ce petit mot « kénose ». Voici tout le mystère d'un Dieu qui vient à fleur de terre, se révéler dans l'humilité la plus extrême. Et Varillon écrivait aussi ceci, l'humilité de l'amour donne la clé. Il faut peu de puissance pour s'exhiber, mais il en faut beaucoup pour s'effacer. Dieu est puissance illimitée d'effacement de soi. Un Dieu qui s'efface. Bon, qu'allons-nous faire de cette idée? En Philippiens 2 se brise toute prétention à ne mettre notre Dieu que du côté de la force. Il nous faut renoncer à cette idée rassurante d'un père, d'un papa dans les cieux qui nous protégerait de tout, qui nous épargnerait la souffrance et qui ne se manifesterait que par la force et la puissance. Dur. Dur de renoncer à ces idées et à ces images de Dieu. Nous le savons bien, toutes les images que nous nous faisons de Dieu ont des répercussions sur notre manière de croire et de vivre notre foi. Philippiens 2 nous donne l'image d'un Dieu qui se révèle dans l'humilité. Et cela a des conséquences sur notre manière de croire. Alors quand Paul écrit cette lettre à la communauté de Philippe, il est en captivité. Et il met en garde les Philippiens par rapport à des difficultés extérieures, par rapport à des missionnaires qui pourraient avoir sur eux une influence néfaste. Vous le savez bien, au milieu du 1er siècle, l'évangile était prêché de différentes manières. Et Paul exhortait ses communautés à rester fidèles à sa ligne. Et pour justement ne pas céder comme ça à d'autres vents de doctrine, des enthousiastes ou des personnes trop judéo-chrétiennes, Paul leur demande de maintenir l'unité, de rester unis et solides dans leur foi. Et cette unité, elle se construit aussi, et je dirais surtout pour Paul, sur un vivre ensemble qui est basé sur l'imitation de Jésus-Christ. Et c'est très fort, parce que cette hymne, elle est utilisée par Paul comme un exemple donné aux croyants. Alors bien sûr, ils ne sont pas Jésus, mais dans l'humilité, ils peuvent marcher à sa suite. Ainsi, cette kénose, cette manière de se vider de soi, au-delà du concept théologique, est une expérience très concrète. Elle devient un chemin d'imitation du Christ et une manière de contrer toutes les forces de division internes à la communauté. On sait bien que tout groupe humain peut se disloquer sous le coup des conflits. Et Philippiens 2 présente l'humilité, l'humilité extrême, la kénose, comme le ciment d'une communauté. Le mystère de l'abaissement, puis de l'élévation du Christ, a une conséquence directe dans la vie de celles et ceux qui croient et qui l'accueillent. Parce que si on y croit, on vit différemment. Dès lors qu'une communauté croit en la puissance illimitée d'effacement de soi de Dieu, eh bien cette communauté doit vivre selon les valeurs de l'Évangile, conformément à l'exemple du Christ. Et je vous rappelle donc ce qui est dit au début de notre texte. Quelles sont les conséquences de cette vie dans la foi vécue dans l'humilité? Paul nous dit que nous sommes portés par l'appel du Christ, l'amour et la communion dans l'esprit. Qu'il s'agit de vivre en plein accord et de rechercher l'unité. Entre nous, pas de rivalité, pas de fausse gloire, pas de gloriole, mais l'humilité et un regard qui parfois donne la première place à l'autre jusqu'à le croire supérieur à nous. Bon, alors si j'ai bien compté, je crois que ça peut faire à peu près 7 minutes que je suis en train de prêcher. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur terre. Parce qu'après des hautes questions christologiques, voici maintenant des considérations sur la vie de la communauté qui, franchement, à vue humaine, me semble totalement impossible. Ce que propose Paul, c'est une éthique qui est basée sur la dépossession de soi. En termes souvent usités aujourd'hui, on pourrait parler du renoncement à l'ego. Cela impliquerait une telle humilité parmi nous qu'il n'y aurait plus au sein des communautés chrétiennes ces rivalités, ces petits conflits de pouvoir, ces grosses crises d'affirmation de soi. Enfin, oui, j'ai pas mis d'exemple, je me suis dit que vous en aurez assez. Mais bref, enfin, je ne connais pas votre communauté, mais je crois que tout groupe humain vit ça. Alors, comment arriver à vivre ce que nous dit Paul? Bien, le texte d'aujourd'hui nous donne une piste assez claire. Le comportement des croyants doit s'identifier à celui de Jésus. Cela ne passe donc que par une conversion profonde. Et je dirais par l'humilité de la conversion. Parce qu'on le sait bien, on ne se convertit pas une seule fois. C'est chaque jour que notre cœur est appelé à se convertir. Il s'agit donc de consentir à changer radicalement, à lâcher nos habitudes, notre manière d'être, pour vivre différemment. Il s'agit de choisir l'humilité et l'amour spirituel plutôt que de continuer à vivre dans des rapports de pouvoir incessants. Bon voilà, le programme reste donc quasi impossible. À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, l'humilité était mal vue. C'était réservé aux faibles, qui étaient si faibles que de toute façon ils ne pouvaient même pas prétendre à être forts. Donc l'humilité était mal vue. Mais voilà que le Dieu humble demande des enfants qui ont le courage de l'être à leur tour. Et voilà, une fois de plus, la porte ouverte par l'Évangile semble bien étroite. Sommes-nous dans une impasse? Bien, dans cet élan d'humilité à laquelle tous les croyants sont invités, bien moi je vois un obstacle majeur. C'est que le cœur humain a une sacrée capacité à tordre les choses. Ainsi, si ces versets de Paul aujourd'hui sont pris à la lettre, ils peuvent encourager une possible perversion. C'est-à-dire une kénose, un sacrifice de soi qui ne serait pas basé sur l'amour, mais sur le mépris de soi. En effet, je crois que il nous faut nous attarder maintenant sur cette fâcheuse tendance à utiliser le sacrifice de soi pour soi. Je m'explique. Vous savez, les jours où l'estime, l'amour de soi, flanche un peu, eh ben on peut être tenté de se sacrifier pour les autres. et de tout donner en s'oubliant totalement, finalement en se méprisant. Le sacrifice n'est pas l'oubli de soi. Il n'est pas fait pour nous arranger ou pour nourrir la mauvaise image que nous pourrions avoir de nous-mêmes. Rien de pire, nous le savons, que les personnes qui se sacrifient pour les autres dans l'intention d'être aimées en retour. Parce qu'alors là, l'intention même est faussée. Et ceci n'est pas le sacrifice que Dieu demande. La kénose, ce n'est pas « je ne vaux rien et je me donne aux autres ». La kénose, c'est « je sais que j'ai de la valeur et je choisis de m'oublier et de me donner aux autres ». Je pense que vous avez saisi. Mais je trouvais important de faire cette petite clarification pour ne pas verser dans un travers chrétien assez répandu. Oui, on peut être amené à sacrifier son propre intérêt pour l'autre, et peut-être même à le considérer, comme dit Paul, à considérer l'autre comme supérieur à soi. Mais c'est au nom d'un amour spirituel qui trouve son origine dans l'amour de Dieu. Ceci ne passe que par un long chemin, qui est celui du détachement de soi, d'un apprentissage dans la relation, où je veux le bien de l'autre, où je lâche jalousie et rivalité pour vivre réellement en communion. Et ce n'est pas une harmonie de façade. Cela vient du plus profond de nous. Alors trop souvent, et vous le savez bien tous, dans ce que j'aime à appeler, vous me permettrez l'expression, la gentillocratie chrétienne, on vit des relations superficielles parce qu'on doit s'aimer. Et la dictature de l'amour chrétien, basée sur des textes comme celui d'aujourd'hui, peut être très pesante. Dans l'obligation d'aimer, comme cela peut parfois nous être prêché ou enseigné, il y a une contrainte. Et pour répondre à cette loi de l'amour, parce que l'amour devient alors une loi, on peut avoir envie de nier ce qui fait nos relations. Vous savez, la concurrence, l'ambition, le désir d'excellence, l'envie inavouée d'écrabouiller l'autre, puis tous ces petits agacements quotidiens. Bref, vous savez, il suffit de regarder des enfants jouer pour savoir de quoi nous sommes faits. Et dans les conflits entre adultes, eh bien, les ressorts auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes que dans les cours de récréation. Alors comment nous aimer véritablement les uns les autres dans nos cours de récréation ecclésiale? Est-ce possible? Le désir d'unité chrétienne est-il un idéal inatteignable, considérant nos cœurs et nos réalités psychologiques? J'espère que je ne vous décourage pas là avec trop de réalisme. Bon, ça va. C'est vrai que si certaines églises tombent facilement dans le travers, vous savez, du fantasme de la fusion et puis cèdent à la gentillocratie de façade, il y en a d'autres, des églises, qu'à force de relativiser le commandement de l'amour, le laissent aux oubliettes. Et puis le vivre ensemble n'est alors plus irrigué par une foi commune. On voit l'éthique qui se dessèche, des chrétiens de nom, mais pas de cœur. Et puis on se demande même parfois s'il y a encore le désir de vivre sa vie dans l'inspiration donnée par Jésus-Christ. Si vous me permettez cette simplification à outrance, je crois percevoir aujourd'hui ces deux courants dans l'Église, comme en nous. D'un côté, vous savez, on a le rêve d'amour et d'harmonie facile qui nie les obstacles. Et puis de l'autre côté, on a la déception, le manque de foi. Il n'y a même plus de rêve. Et on saute ces passages de la Bible qui nous dérangent un peu trop. Donc aujourd'hui, finalement, entre ces deux positions, comment entendre les paroles de Paul et leur donner une réalité dans nos vies? Comment vivre honnêtement, courageusement ces paroles? Comment s'aimer en toute humilité? Revenons au Christ, qui s'est abaissé et humilié sa vie durant. Georges Aldas écrivait à son propos « Sa défaite sociale et terrestre, où il a connu tous les outrages, dérisions comprises, elle aussi n'est que l'envers de sa souveraineté dans le royaume des grands fonds en nous. » Le Christ régnerait donc sur nos grands fonds. C'est beau. Il nous permettrait donc enfin de sortir de la rivalité, de l'égocentrisme. On pourrait se réjouir du succès de l'autre, l'encourager, le considérer comme meilleur que soi, sans s'effondrer dans une crise de jalousie, un sentiment d'envie. Bref, nous pourrions aimer gratuitement, nous lancer dans la relation pour le simple bonheur d'aimer. Bon, là, est-ce qu'on est revenu sur Terre ? Dites-moi. Ou sommes-nous encore seulement dans un idéal, un rêve ? Tout cela, c'est beau. Mais franchement, et j'ose le dire au bout maintenant de 30 ans d'expérience ecclésiale, j'ai souvent été très découragée par les relations au sein de nos communautés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le Christ aux lèvres, la division dans les cœurs. On dit tout le temps, Jésus t'aime, et puis c'est le jugement permanent. Et sans compter mes propres obstacles, à aimer les autres comme ils sont. Mais ce qui me donne de l'espoir, et ce qui fait que je suis encore ici devant vous, c'est de voir des personnes essayer et persévérer dans cette foi, dans cette voie. Dans le dialogue, le respect et ce profond désir d'incarner leur foi. Eh bien, il y a des choses fabuleuses qui se passent dans l'amour et la communion, entre personnes qui ont réellement saisi que l'amour passe par le dessaisissement de soi et que se perdre un peu nous permet enfin de trouver l'autre. Des personnes qui ont compris que renoncer, c'était gagner. Et que le mystère de l'amour est dans le don et le regard émerveillé sur l'autre. Que le mystère de l'amour s'exprime dans ce décentrement, ce mouvement hors de soi. Cet amour spirituel, je l'ai rarement vu s'exprimer dans des choses spectaculaires. Je cherchais des exemples à vous donner. Quand est-ce que l'on aime ainsi, spirituellement ? Quand est-ce qu'on aime tellement que l'on renonce à soi ? Je pensais à l'amour pour les enfants. C'est vrai que quand on devient parent, on est surpris de ce qu'on est capable de faire pour un petit être, ce à quoi on peut renoncer. Puis il y a aussi, vous savez, les personnes pour qui on pourrait un peu donner de notre vie. On peut penser à celles à qui on pourrait, par exemple, offrir un organe. Ça, c'est un amour très fort, don de soi très fort. Je cherchais des exemples dans nos vies communautaires. Peut-être le sens de l'accueil. La véritable collaboration en équipe, quand il n'y en a pas un qui essaye tout le temps de tirer la couverture à lui. Je me disais la bienveillance, la confiance accordée, le pardon vécu. Mais plus je cherchais des exemples, plus il m'était difficile de trouver des situations réelles, où l'amour n'est pas captatif, où l'intention de mes actions a vraiment une réelle gratuité, où je me sens portée par un amour qui est plus que moi, que je peux partager avec les autres, mais qui finalement ne m'appartient pas. Un amour qui ne peut s'exprimer que dans ce vide que je consens à laisser en moi. Alors je cherchais des exemples, et puis je suis tombée sur le témoignage d'un homme qui a écrit un livre sur son expérience dans les communautés monastiques. Henri Brunel, dans son petit livre de la sagesse des moines, parle de son expérience dans une abbaye cistercienne. Puis je me suis dit, tiens, lui, il a bien trouvé les mots, alors je vais vous les partager. Je demandais un jour au père Pierre, « Avez-vous un secret, une méthode qui vous permette de vous supporter les uns les autres et de vous aimer ?» Il me sourit. « Oui, Henri, nous avons une technique très au point. » « Laquelle ? » demandai-je, curieux et naïf. « Les services mutuels, l'humilité, le sourire, le silence et l'aide du Saint-Esprit. » Il ajoute, « J'eus l'occasion de vivre quelques jours avec les moines de Bellefontaine. Et tout cela, dont m'avait parlé le frère Pierre, les services mutuels, le frère prévenant les désirs de son frère, les sourires, le silence, l'union de prière, la communion spirituelle, la grâce et le feu, tout cela je l'ai vu de mes yeux vus. Je l'ai connu dans mon cœur et j'en garde sur mes lèvres une saveur de paradis. Je l'avoue, je ne croyais pas que ce fût possible. J'avais 23, 24 ans. La vie m'avait passablement rudoyée. J'avais connu les groupes, les collectivités, colonies de vacances, pensions, armées. Et je savais que toutes les communautés distillent ces poisons, les jalousies, les lâchetés, et que le plus faible est écrasé. Je revois ce premier repas au monastère. À la table d'hôte, nous mangions en silence, tandis que le haut-parleur nous transmettait en grésillant la voix du lecteur en provenance du réfectoire du cloître. J'écoutais d'une oreille distraite un sermon de carême perdu dans mes pensées. Un moine me présenta la corbeille de pain à l'instant exact où j'en manquais. Il me sourit avec une telle chaleur, une si radieuse bonté, que j'en fus ébranlée. Un retraitant laïc m'offrit la carafe d'eau et je me surpris à chercher des yeux ce que je pourrais faire à mon tour pour rendre service, prendre ma part de cet échange d'amitié. Puis il finit ainsi son paragraphe. La communauté monastique, image avant-coureuse du paradis. Voyez cette description du paradis qu'on voudrait parfois tellement éloigner de nous. Elle est si proche de notre quotidien. Un repas partagé, un peu d'eau et un sourire. Voici donc l'amour kénotique. Oh là là, la théologie a vraiment des mots barbares. Mais bref, cet amour spirituel, il s'exprime à fleur de terre, dans une immense simplicité. Mais on sait bien la force et la portée d'un regard clair, d'un sourire vrai et du pain partagé. Et je crois que c'est là, dans ce qui fait le plus concret de nos relations, que Dieu règne. Nous ne sommes pas appelés à être des super chrétiens, mais d'abord des super humains. C'est-à-dire à être tellement humains, humbles, conscients de notre origine terrestre, que Dieu peut se révéler à travers nous dans les plus simples gestes du quotidien. Cette joie, vous savez, cette joie dont Paul parle tellement dans l'Épître aux Philippiens. Elle est peut-être là, dans ce consentement à vivre notre foi dans les petites choses. À vivre notre foi en posant un regard radicalement différent sur nos frères et sœurs. Il n'y a rien de plus simple et rien de plus difficile. Parce que là, nous ne sommes pas attendus sur le terrain de notre savoir, de notre notoriété, de notre force, de nos vertus spirituelles, mais sur le terrain de notre cœur. Et dans ce cœur, y a-t-il assez de vide, de place? Dans ce cœur, avons-nous fait assez d'espace pour y accueillir l'autre et l'aimer au point d'arriver, parfois, à renoncer à notre propre intérêt pour lui? À avoir cet élan d'affection et de compassion qui trouve sa source dans l'amour même du Christ. Peut-être qu'avec ces grands mots, nous n'irons pas très loin, mais avec un sourire, un peu d'eau. Et la promesse que l'Esprit nous accompagne, eh bien, croyons que nous pourrons vivre des relations renouvelées et bénies. Amen.